journal, Kevin Dufraîche, bonjour.
Bonjour à tous. Je ne regrette pas ma décision. Joe Biden, inflexible hier soir dans son adresse à la nation américaine, deux jours après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, et alors que le chaos règne dans la capitale Kaboul, dont les Occidentaux essayent d'évacuer au plus vite. Emmanuel Macron s'est lui aussi exprimé hier, alertant notamment sur ce qu'il appelle les flux migratoires irréguliers à venir. À la une également, des milliers de touristes et de locaux évacués ces dernières heures dans le Var. Violent incendie en cours, 5000 hectares ravagés autour de Gonfaron. Il fait encore chaud, le vent reste fort sur place, de quoi inquiéter les quelques 800 pompiers mobilisés. Le Covid, et si le nombre de cas quotidiens reste élevé, on recense de moins en moins de cas contacts. C'est avec les vacances, les personnes positives ne connaissent pas toujours ceux qu'ils ont potentiellement contaminés. Reportage à suivre avec la plateforme de tracing d'Evreux en Normandie.
Et puis dans le grand entretien à 8h20, le professeur Antoine Pellissolo, psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil. Un an et demi de crise sanitaire, quelles conséquences psychologiques? Vous avez des séquelles après avoir été contaminé, votre ado a dévissé ces derniers mois comme beaucoup de jeunes et de très jeunes. Appelez-nous, venez témoigner, on vous attend au standard d'Inter 01 45 24 7000.
Dans ce journal encore, les coulisses du nouveau palais de justice de Paris, visité par de nombreux touristes, et un retour que l'on espère gagnant en cyclisme. Thibaut Pinot remonte sur son vélo aujourd'hui après presque un an de souffrance.
France Inter.
Pas de regrets et pas vraiment d'état d'âme pour Joe Biden. Le président américain s'est expliqué hier soir sur le départ précipité d'Afghanistan. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, un exemple de ce qu'il se passe sur place. Un exemple de la peur qui a envahi les rues de Kaboul depuis l'entrée des talibans dans la capitale. Les femmes afghanes craignent plus que tout les islamistes. Certaines vivent cloîtrées chez elles depuis deux jours. Témoignage avec Margot Kefelek.
À 16 ans, c'est une des premières fois que cette lycéenne met en pratique ses cours d'anglais. Et c'est pour exprimer la peur qu'elle ressent depuis que les talibans sont arrivés à Kaboul.
Récemment, j'en ai vu certains d'entre eux. Ils ont des visages vraiment effrayants. Je suis très triste et j'ai peur en ce moment. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Du régime des talibans qui s'est arrêté en 2001, elle ne connaît que les récits de sa grand-mère, décédée il y a quelques années. Cette fois, les combattants ont répété qu'ils respecteraient les droits des femmes, mais toujours en accord avec ce qu'ils appellent leurs valeurs islamiques. Cela ne rassure pas la lycéenne, qui craint surtout pour son éducation.
Avec l'avènement des talibans, tout semble bizarre. Tous les champs de l'éducation vont être détruits pour moi. J'ai l'impression que tous mes rêves sont détruits.
Entre les jeunes afghanes, des histoires circulent sur ce qui a pu se passer dans les provinces conquises par les talibans depuis plusieurs semaines, comme l'explique cette étudiante de 23 ans, cloîtrée chez elle depuis dimanche.
Quand les talibans sont arrivés à Mazar-e-Sharif, ils ont dit aux gens qui avaient des jeunes filles « Vous voudriez nous donner vos filles ?» Puis ils ont pris les filles par la force. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour nous.
Les parents des deux jeunes filles craignent qu'elles ne soient enlevées par les talibans et souhaitent quitter l'Afghanistan au plus vite.
Margot Kefelek. Les Afghanes et les Afghans désormais livrés à eux-mêmes, les Occidentaux évacuent, les Américains en tête avec le rapatriement de leur personnel diplomatique et de leurs forces armées. Départ précipité dans la confusion. On a vu hier les soldats américains tirer en l'air pour disperser la foule de civils afghans tentant de monter dans les avions de l'US Army. Et malgré ces images, malgré la défaite face aux islamistes et malgré les critiques, Joe Biden reste droit dans ses bottes. France Inter à New York, Loïc Loury.
I stand squarely behind my decision. Une décision sans équivoque. Joe Biden, depuis la Maison-Blanche, a assuré défendre fermement le retrait américain d'Afghanistan. Un an de plus, dit-il, 10 ou 20 ans n'y auraient rien changé. Notre mission en Afghanistan n'a jamais été de construire une nation. Notre seul intérêt est ce qu'il a toujours été, empêcher une attaque terroriste sur le sol américain. Le président ne regrette pas son choix, mais reconnaît tout de même que la situation ces derniers jours s'est dégradée plus vite que prévu, tout en rejetant la faute encore une fois sur l'armée afghane. Les leaders afghans ont tout abandonné et se sont enfuis. L'armée afghane s'est écroulée. Les troupes américaines ne peuvent pas et ne doivent pas se battre, mourir dans une guerre que les soldats afghans n'ont pas la volonté de faire pour leur propre pays. Il met en garde les talibans. S'ils attaquent nos personnels ou perturbent nos opérations, nous nous défendrons en employant, si nécessaire, nécessaire des forces dévastatrices. Mais il n'a qu'un mot à peine pour les scènes de chaos à l'aéroport de Kaboul. Joe Biden a ensuite refusé de répondre aux journalistes et repris la route de Camp David, lieu de villégiature des présidents. New York, Loïc Loury, France Inter.
Emmanuel Macron s'est également exprimé sur le sujet hier soir depuis le fort de Brégançon. Le chef de l'État a détaillé le plan d'évacuation pour les ressortissants français, diplomates et humanitaires, ainsi que pour les Afghans qui ont aidé la France durant l'intervention de l'armée entre 2001 et 2014. C'est notre devoir et notre dignité, estime Emmanuel Macron, qui dit dans le même temps qu'il faudra, je cite, se protéger contre des flux migratoires irréguliers importants, ce qui lui vaut une salve de critiques venue de la gauche. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent cet après-midi pour évoquer justement l'accueil des réfugiés.
La France était jusqu'ici plutôt épargnée. Un violent incendie frappe le Var depuis hier.
Le massif des morts et les alentours de la ville de Gonfaron, où Gérald Darmanin est d'ailleurs attendu ce matin. 5000 hectares sont d'ores et déjà partis en fumée. Delphine Vienco est la commandante des pompiers du Var. Elle décrit la violence de l'incendie.
Ce sont près de 750 sapeurs-pompiers qui ont lutté toute la nuit contre un violent feu qui a eu vraiment une vitesse de propagation terrible, puisque nous sommes sur des vitesses de propagation encore plus élevées que celles qu'on avait pu connaître sur les incendies de 2003. Les conditions météo étaient très défavorables dès hier, puisque la zone était classée en risque très sévère, feu de forêt. Donc des températures caniculaires. Vous rajoutez à cela un fort vent d'ouest avec une sécheresse accrue. Les Canadairs sont à pied d'œuvre, ont recommencé, sont sur le secteur. Nous avons plusieurs Canadairs, 4 Canadairs et 3 hélicoptères bombardiers d'eau qui vont renforcer ce dispositif.
La commandante des pompiers du Var, Delphine Vienco, ce matin chez nos collègues de France Info. Et les autorités ont dû évacuer des milliers de personnes depuis hier, notamment des familles en vacances dans plusieurs campings du secteur, temporairement hébergées dans des gymnases comme ici au Lavandou où s'est rendu David Ossillou.
Oui, le gymnase Le Cossec où 330 vacanciers sont arrivés en pleine nuit. Le camping, leur camping, le Pachacaïd, mais aussi le Capson à la Molle ont été évacués par les gendarmes qui ont dirigé ces familles jusqu'ici. Par exemple, la famille d'Aurélie, venue de Dunkerque.
C'est surtout mes enfants qui ont eu peur. Donc ça a été un peu compliqué, ouais. Moi, on voyait des flammes, ouais. J'ai pris le plus gros de mes affaires, voilà, parce que je savais pas trop pour combien de jours on en avait. J'ai des enfants en bas âge. Mes enfants dorment dans la voiture avec mon mari et du coup, j'arrive pas trop à dormir en fait. C'est plutôt un cauchemar.
Comme Aurélie, les autres vacanciers accueillis dans le gymnase du Lavandou se réveillent ce matin. Un petit déjeuner va leur être servi dans l'école, juste en face. Tous n'ont qu'une obsession, qu'ils puissent vite retourner dans leur camping pour au moins récupérer leurs affaires.
David Ossillou de France Bleu Provence au Lavandou est peut-être une lueur d'espoir pour les pompiers. La fin de l'alerte orange canicule dans le Var justement ainsi que dans les Alpes-Maritimes. Les feux qui depuis le début de l'été détruisent des milliers d'hectares partout dans le monde, de la Sibérie à la Californie en passant par la Grèce. Au Maghreb, il semble être enfin maîtrisé, c'est le cas au Maroc. En Algérie, les derniers foyers sont en passe d'être éteints. Des incendies souvent favorisés par des températures caniculaires. Le réchauffement climatique va d'ailleurs plus vite que prévu, selon le GIEC qui rendait son rapport la semaine dernière. Rapport qui sera à l'ordre du jour de la prochaine COP à Glasgow. Vous entendez Boris Johnson, car c'est lui, le Premier ministre britannique, qui accueillera cette année le sommet de l'ONU sur le climat à Glasgow. Ce sera le 31 octobre, toute cette semaine sur France Inter. Dans le journal de 8h, on vous parle de ces dates qui vont marquer le monde dans les mois à venir. Et 6 ans après l'accord de Paris, cette COP26 est donc un nouveau rendez-vous crucial, Célia Kiré.
Les scientifiques sont en effet très clairs, le climat de 2050 se décide dès maintenant. Boris Johnson, chef du gouvernement britannique, en est convaincu. Cette décennie sera déterminante. Emmanuel Macron espère également un accord à la hauteur de l'urgence. Le temps de l'indignation est derrière nous, insiste-t-il. Mais tous les pays seront-ils sur la même longueur d'onde? Pour le moment, les ambitions sont timides. Fin juillet, à peine plus de la moitié des États participants à cette conférence avaient rendu leur copie, précisant leurs engagements de réduction de gaz à effet de serre. nucléaire. Contribution d'ailleurs insuffisante selon la responsable climat de l'ONU. Et certains pays, la Chine, l'Inde ou l'Afrique du Sud, n'ont encore rien déposé. En 2015, l'accord de Paris prévoyait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, voire 2 degrés maximum. Or, cela suppose de réduire chaque année jusqu'en 2030 les émissions de gaz à effet de serre de plus de 7%. Objectif très exigeant. À Glasgow, début novembre, les pays participant à cette COP26 devront trouver des solutions pour ne pas dépasser 2 degrés, car au-delà, les événements climatiques extrêmes, déluges, incendies, seraient encore plus fréquents qu'aujourd'hui.
8h10, le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid reste élevé en France.
23 400 en moyenne sur les 7 derniers jours, en légère augmentation. Autant de personnes que l'assurance maladie appelle chaque jour pour définir les cas contacts, qui eux sont en baisse, 1,5 en moyenne contre 2,4 il y a encore quelques semaines. Alors comment expliquer cette baisse? Reportage avec les 49 agents de la plateforme de contact tracing d'Evreux en Normandie, signée Hélène Chevalier.
Au téléphone, un homme testé positif vient de rentrer du Congo. L'agent de l'assurance maladie cherche à obtenir le maximum d'informations sur son voyage.
Vous avez pris votre billet et vous êtes revenu quand?
Mais ici, impossible pour le malade de donner les noms des passagers, possiblement cas contact, qui ont voyagé à ses côtés. Des situations qui se multiplient cet été, constatent Katia Vasquet et Sylvie Duteil, respectivement manager et responsable de la plateforme d'Evreux.
En ce moment, on a effectivement plus de transports de longue durée, des transports collectifs. On a beaucoup de cas de contamination dans des colonies de vacances, aussi des campings.
Il y a des festivités qui font qu'on ne peut pas identifier les gens qui étaient autour de nous.
Et donc du coup, là on est dans l'obligation de faire des signalements au niveau de l'agence régionale de santé.
Pour le directeur adjoint Jean-Baptiste Lechard, la baisse de déclaration des cas contacts pourrait être aussi due à la campagne de vaccination.
Alors il est possible que les personnes ne déclarent pas des personnes vaccinées de leur entourage, croyant qu'effectivement la vaccination les en dispensait, mais non, effectivement une personne vaccinée doit bien être identifiée comme cas contact.
Moi je vais noter que vous n'avez que 2 cas contacts.
À moins que certains aient aussi peur de perdre quelques amis.
Il y a aussi ceux qui ne veulent pas gâcher les vacances de leurs amis en disant « bah non, je ne vais pas le dénoncer parce que… » Enfin, le dénoncer, le signaler, donc c'est tout un…
C'est un mauvais calcul car ça expose la personne en question à une contamination en série de ses proches.
D'autant que le variant Delta est 60% plus contagieux que son prédécesseur.
Hélène Chevalier, autre chiffre notable sur le front du Covid, les admissions quotidiennes en service de soins critiques sont en légère baisse sur une semaine, 160 en moyenne, soit une diminution de 5%. 1908 patients Covid sont en soins critiques ce matin et la barre des 10 000 personnes hospitalisées vient d'être dépassée à nouveau. Bob Dylan poursuivi pour agression sexuelle à New York aujourd'hui. Une femme l'accuse d'agression il y a près de 60 ans alors qu'elle était âgée de 12 ans. En théorie, les faits sont prescrits, mais en vertu d'une nouvelle loi, l'État de New York permettait jusqu'au 14 août aux victimes d'abus sexuels de poursuivre leurs agresseurs, quelle que soit la date des faits présumés. Cette femme réclame des dommages et intérêts. Le montant n'est pas connu.
Quand on pense visite à Paris, on pense d'abord à la Tour Eiffel ou au Louvre.
Pas forcément au nouveau palais de justice de Paris dans le 17e arrondissement. Et pourtant, eh bien, il a plutôt la cote, conçue par Renzo Piano, architecte déjà du célèbre Centre Pompidou. Un bâtiment impressionnant que les touristes viennent découvrir pour mieux comprendre aussi le fonctionnement de la justice. Louise Aura a suivi une visite.
On a là, on l'a dit, 7000 personnes, messieurs-là.
Un flux de 7000 personnes au quotidien. Le tribunal de Paris, c'est l'équivalent d'une petite ville qui s'étire sur 160 mètres de hauteur. Ce gratte-ciel est monumental par bien des aspects. Et il l'est tout autant de l'intérieur.
On verra tout à l'heure ce côté aérien du bâtiment quand on va monter.
Félix est impressionné.
Énorme bâtiment.
Ce médecin suisse est bien content de n'être ici qu'un simple visiteur.
Imaginez si vous avez un petit problème avec la justice.
T'es intimide.
Y'a.
Allez, on va se déplacer.
Parmi la vingtaine de visiteurs, certains sont intéressés par l'architecture, d'autres veulent en savoir plus sur le fonctionnement de la justice. Sandrine entre ici pour la première fois.
Je ne savais pas non plus qu'on pouvait assister au procès ici en tant que public. Donc maintenant je le sais, je pourrais venir revenir si j'en ai envie.
On peut rentrer à tout moment dans ces salles quand il n'y a pas un huis clos.
Laura Romano, la guide conférencière, donne les codes pour accéder au bâtiment.
À nous les guides de savoir aussi sensibiliser et d'expliquer un petit peu ce que déjà on peut faire, moins faire, pas faire du tout. Et amener d'autres personnes à découvrir aussi cette magistrature, ce parquet, expliquer, voyez son fonctionnement, ça intéresse beaucoup.
La guide laisse son public devant les portes de procès en cours, une occasion de voir la justice en plein exercice.
Le reportage de Louise Aura à retrouver aussi en version longue. C'était le grand angle ce matin sur France Inter. C'est à réécouter sur franceinter.fr. Enfin, l'histoire d'un revenant en cyclisme. Thibaut Pinot se remet en selle aujourd'hui sur le Tour du Limousin. En 2019, le leader de la Groupama FDJ a abandonné le Tour de France en larmes à cause d'une blessure au genou. Et les galères se sont enchaînées ensuite pour le Français qui a bien failli ne jamais remonter sur un vélo. Nicolas Perronnet.
Il y a presque un an, première étape du Tour 2020 à Nice. Thibaut Pinot goûte le bitume de la promenade des Anglais.
Thibaut Pinot est pris dans cette chute. La malchance qui continue de s'abattre sur le franc-comtois.
La malchance est le début de la galère. Douleur persistante au dos, retour prématuré sur le Tour des Alpes fin avril. Il faut s'y résoudre. 2021, une année sans grand tour ni Jeux Olympiques.
Le plus dur, ça a été de regarder toutes les courses à la télé et puis de ne pas avoir d'amélioration durant les 6-7 premiers mois de l'année. Là. C'était vraiment ça qui était le plus dur, c'était d'être impuissant et inutile. Quoi.
L'éclaircie arrive finalement mi-juillet lorsque Thibaut Pinot rejoint ses coéquipiers en stage à Tignes. Ces derniers jour, il a multiplié les sorties de plus de 6 heures sans douleur et c'est donc sur les routes vallonnées du Limousin qu'il espère enfin reprendre du plaisir sur une course.
La passion est motivée comme ça fait très longtemps que j'ai pas été motivé, je crois. Donc j'ai l'impression d'être un coureur tout neuf, tout jeune, avec plein d'envie. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été aussi impatient de remettre à dos ça. Ouais.
Thibaut Pinot s'est concocté un programme franco-français pour sa reprise avec après le Limousin les tours du Poitou-Charentes, du Jura et du Doubs.
Nicolas Perronnet et départ donc pour un Thibaut Pinot tout neuf et le reste du peloton à midi et demi depuis Ille, c'est en Haute-Vienne pour la première étape donc de ce Tour du Limousin.
Le journal de Kevin Dufraîche et ce mardi pas tout à fait au soleil.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Stéphanie Fromentin, la journée oui. Est calme, pas très lumineuse.
Oui, c'est encore le gris qui domine aujourd'hui avec beaucoup de nuages. On retrouve une nébulosité bien chargée, en particulier au nord de la Seine, avec quelques gouttes possibles le long de la frontière belge. Ces nuages s'installent aussi au pied des Pyrénées. Ils restent coincés sur le Béarn et le Pays Basque. Tandis que le ciel de Bretagne, globalement nuageux, retrouve parfois quelques éclaircies qui vont s'élargir en cours de journée sur le centre du pays. Il n'y a que les régions méditerranéennes qui profiteront d'une journée encore généreusement ensoleillé au prix d'un vent qui souffle fort. Mistral et Tramontane se déclinent encore par rafales de 70-90 km/h dans le golfe du Lion et la basse vallée du Rhône. Ces vents devraient se calmer dans l'est de la région PACA mais sont encore assez forts dans l'ouest.
Les températures timides pour une mi-août.
C'est ça, vous n'aurez pas plus de 18-20 degrés le long des côtes de la Manche, 21 à 23 au nord. En descendant vers la Garonne et le Rhône, c'est aussi assez homogène avec 24-26 degrés. La chaleur est plus résistante mais raisonnablement estivale en Méditerranée. Avec 30 à 34 degrés. Il fera 32 degrés à Manosque, mais seulement 19 à Brest. 26 à Cahors, 24 à Orléans, 22 à Paris, Colmar, Saint-Étienne, Caen ou Laval, 20 degrés à Cherbourg et 19 à Compiègne.
Merci bien Stéphanie Fromentin. France Inter, 8h17, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter.
Avec vous, Anthony Bélanger, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Le retrait des États-Unis en Afghanistan fait au moins un heureux Moscou.
Et oui, ça commence par des communiqués diplomatiques en provenance du Kremlin et qui s'étonne de la rapidité avec laquelle l'administration soutenue par les Américains s'est effondrée sous les coups de boutoir des talibans. Une façon à peine voilée de marquer la différence avec la façon dont les Russes sont eux partis en relatif bon ordre d'Afghanistan, c'était en 1989, laissant sur place une administration pro-russe qui, elle, a tenu plusieurs années avant de laisser la place de la Schadenfreude, en somme. Ça continue par cet autre communiqué de l'ambassade russe à Kaboul, cette fois, qui fait savoir que l'ambassadeur sera reçu dès aujourd'hui par les talibans. L'enjeu de ces discussions est bien envisager à terme la reconnaissance par Moscou du nouveau régime.
Moscou tente donc de combler le vide laissé par Washington.
Mais vous savez, Hélène, la nature géopolitique a horreur du vide et Moscou est loin d'être la seule capitale à s'engouffrer dans la brèche. Les Chinois ont aussi fait savoir que leur ambassade à Kaboul restait ouverte, mais la Russie a pris de l'avance dans ce grand jeu version 21e siècle. Alors, ce qu'on appelle le grand jeu est une série de manœuvres diplomatiques, de coups de main, de coups fourrés qui ont opposé Russie et Grande-Bretagne pour le contrôle de l'Afghanistan au 19e siècle. Il y a d'ailleurs un signe qui ne trompe pas de cette avance russe. L'ex-président Rani, en fuyant, ne s'est pas réfugié en Occident ou aux États-Unis, où pourtant il a vécu et enseigné une grande partie de sa vie, où il a fait carrière à la Banque mondiale avant de revenir dans son pays, mais au Tadjikistan. Ce n'est peut-être qu'une étape dans son exil, mais une étape symboliquement très significative. Il s'est réfugié dans un pays ami et client de la Russie, où Moscou possède une base militaire. Par ailleurs, les Tadjiks sont des opposants de toujours aux talibans.
De là à imaginer un retour des Russes en Afghanistan.
Alors non, hein, pas sous la forme brutale et militaire imaginée par Moscou dans les années 80. Les Soviétiques avaient en 10 ans de guerre perdu 25 000 soldats, 10 fois plus que les Américains en 20 ans. Et cela avait été un traumatisme durable pour Moscou et le début de l'effondrement de l'URSS. Par contre, la Russie a des intérêts évidents dans la région. Les talibans, au pouvoir entre 1996 et 2001, s'étaient à l'époque empressés de reconnaître l'indépendance de la Tchétchénie et d'accueillir des camps d'entraînement de rebelles tchétchènes. Moscou ne laissera évidemment plus faire. Par ailleurs, Moscou est la puissance tutélaire d'au moins deux communautés très importantes en Afghanistan, les Tadjiks, on l'a dit, et les Ouzbeks. Mais là aussi, Moscou voudra protéger leurs intérêts. Ce que par contre Moscou ne peut pas, c'est payer. Ça, ce sera le rôle d'un autre allié de Moscou, la Chine, qui a déjà fait savoir qu'elle comptait bien s'entendre avec les talibans pour protéger ses investissements passés et à venir. En clair, un véritable tango diplomatico-financier se met en place qui implique au moins deux alliés autour de l'Afghanistan, la Chine qui paye et la Russie qui garantit la sécurité et offre une reconnaissance diplomatique. On comprend mieux que la Russie savoure son retour dans une région où elle avait été défaite par l'Occident, entre autres il y a 30 ans.
Géopolitique, signé Anthony Bélanger. Merci Anthony, à demain. Le grand entretien de la matinale à suivre. On reste ensemble sur Inter.